voilà.
C'est pas du vin. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, faut-il vraiment s'inquiéter ou pas ? Si vous écoutez régulièrement C'est pas du vent, et je sais que vous êtes nombreux à le faire, vous l'avez compris, le climat se réchauffe et la biodiversité disparaît à des vitesses jamais égalées dans l'histoire de l'humanité. Résultat, les décennies qui viennent vont être compliquées. Nous allons devoir faire évoluer nos manières de manger, de nous déplacer, de travailler, de consommer. La technologie va nous sauver, disent certains. Pas si sûr, car les ressources naturelles à notre disposition ne sont pas infinies et il va falloir s'y habituer. C'est en tout cas le credo de notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Philippe Biwix.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur, directeur général adjoint du groupe AREP, qui est une agence d'architecture filiale de la SNCF, la Société nationale des chemins de fer français. Vous avez écrit plusieurs livres qui vous ont rendu célèbre, on peut le dire, hein, dont L'âge des low-tech et plus récemment Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, deux livres publiés aux éditions du Seuil. Alors vous faites beaucoup de conférences sur la raréfaction des ressources ou le mensonge de la croissance verte. Alors tout d'abord, je vous propose de démarrer par un peu d'histoire, parce que je sais que vous aimez bien aussi l'histoire. Ce n'est pas nouveau finalement cette rivalité entre ceux qui pensent que nous allons vers un effondrement de notre civilisation parce que justement nous épuisons les ressources naturelles et ceux qui pensent que la technologie va nous sauver. Ça remonte à quoi ? À peu près à la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, alors ça remonte à minima, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale effectivement. En 1948, on a deux lanceurs d'alerte écologistes. Alors évidemment, on n'utilisait pas ces mots-là encore, mais William Vogt, qui était un féru d'ornithologie, un petit peu autodidacte, qui sort un livre qui s'appelle Road to Survival, qui a été mal traduit en français, enfin le titre par La fin du monde, fin F-A-I-M. Et puis un autre monsieur qui s'appelle Fairfield Osborne, qui lui est président de la New York Zoological Society, et lui va écrire Our Plundered Planet, la planète au pillage. Et donc les deux livres sortent en même temps, en 1948, et ont tous les deux la même thèse. Et cette thèse, c'est de dire qu'on consomme de plus en plus de ressources, et puis qu'on est de plus en plus nombreux. Et évidemment, en 1948, on est en plein milieu, ou au tout début de la grande transition démographique, et donc avec une croissance très forte de la population mondiale. Et en fait, du coup, la conjonction de l'augmentation de la population terrienne et de l'augmentation par personne de la consommation de ressources va nous mener en fait à cogner les limites planétaires. Et on risque d'aller vers, effectivement, une planète pillée, sans ressources, et puis peut-être des grandes famines à venir, etc. Donc un avenir très sombre et une alerte comme ça qui est lancée. Et les livres vont être des best-sellers mondiaux. Hein, et en fait, très très vite, au tout début des années 50, eh bien, vous allez avoir des gens qui, eux, sont plutôt issus des sciences sociales, hein, plutôt des économistes, des futurologues. Hein, et donc ces gens-là vont très vite dire... Non, il n'y a pas du tout de problème, en fait. Il y a une erreur fondamentale, qui est la même erreur qu'avait commis Malthus, d'ailleurs, au début du 19e siècle. Finalement, c'est de négliger la composante du progrès technologique. Et qu'on a cette inquiétude de la pénurie, mais il n'y a jamais eu pénurie parce que le progrès technologique a permis de repousser en permanence les limites, et ça va continuer comme ça. Et donc, ces gens vont être accusés de cornucopianisme, hein, de cornucopiae, la corne d'abondance, par les écolos qui eux estiment qu'au contraire on va avoir des limites. Donc ces cornucopiens, eh bien eux, ils vont aussi écrire des livres, hein. Alors il y a des gens célèbres parmi eux, l'architecte Buckminster Fuller, et lui, dès les années 40, il parle d'éphéméralisation. Aujourd'hui on dirait dématérialisation, c'est-à-dire le fait que, eh bien, en fait, grâce au progrès technologique, on consomme de moins en moins de ressources pour produire des services qui sont de plus en plus intéressants ou de plus en plus poussés. Et il prend l'exemple comme ça des ondes radio qui permettent de transmettre de l'information à la place du câble de cuivre du télégraphe. Et c'est marrant parce qu'on utilise aujourd'hui un peu le même type d'image avec évidemment le câble de cuivre toujours du téléphone qui a été remplacé par les ondes de la 5G qui sont beaucoup plus efficaces, etc. Et donc vous allez avoir vraiment ce combat-là. Alors eux, les cornucopiens, ils y vont pas par le dos de la cuillère non plus. Hein. Ils vont eux prévoir que les avions hypersoniques vont sillonner le ciel dans les années 70 ou 80, qu'il y aura des bases lunaires avant l'an 2000, qu'on va repousser l'âge de la mort, que l'intelligence artificielle va remplacer l'être humain dans plein de domaines. Donc exactement les mêmes promesses qu'aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que finalement aujourd'hui, on en est toujours là. Alors ce qui est certain, c'est que ce soit pour les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole ou pour les métaux les plus couramment utilisés, ce qui est certain, c'est qu'on va de plus en plus loin, de plus en plus profond pour les trouver et pour les exploiter. Ça, par contre, c'est scientifique.
Oui, alors ce qui est tout à fait intéressant dans ce débat, alors, qui va durer jusqu'au début, au milieu des années 80, qui se terminera d'ailleurs par un pari célèbre entre un cornucopien qui s'appelle Julian Simon, qui est un économiste, qui lui écrit des livres pour dire que plus on sera nombreux, plus on sera heureux, parce que plus on aura de chercheurs et plus on aura d'ingénieurs et de techniciens pour repousser les limites. Et donc finalement, on va vers l'abondance et non pas vers la pénurie. Et puis un lanceur d'alerte écologiste qui s'appelle Paul Ehrlich, qui lui a écrit évidemment la bombe P à la fin des années 60, hein, ce population bomb. Et donc ils vont prendre un pari en 1980 qui sera un peu l'acmé du débat entre les cornucopiens et les prophètes de l'apocalypse, hein, puisque les autres avaient le petit surnom de Doomsdayers en anglais. Et d'ailleurs, Ehrlich perdra son pari parce qu'effectivement, le prix des ressources va baisser au lieu d'augmenter. Et c'est vrai que dans le domaine minier, alors ça marche de la même manière pour le pétrole, pour le charbon, pour le gaz, donc les ressources énergétiques, mais aussi pour les ressources minières non énergétiques, hein, le cuivre, le nickel, etc. Eh bien, le progrès technologique est indéniable, évidemment. Et c'est pour ça que, effectivement, au début des années 70, l'équipe du MIT de Denis et Donella Meadows, qui va publier ce fameux rapport au Club de Rome, et donc qui modélise finalement l'effondrement de la civilisation industrielle du fait d'une croissance insoutenable, qui tape dans des ressources finies d'un côté et qui génère de la pollution de l'autre. Hein. C'est bien toute l'histoire, effectivement, de notre aventure technologique. Il y a une sous-estimation, effectivement, très, très importante de la quantité de ressources disponibles, parce qu'on repousse effectivement les limites grâce à la technologie. Ça veut dire dans le pétrole, d'exploiter du pétrole sous la mer, de plus en plus profondément. Ça va être d'avoir des puits directionnels qui fait qu'on a pu développer des pétroles ou des gaz non conventionnels, hein, dits de schiste.
Gaz de schiste, pétrole de schiste.
Exactement. Et donc, on a finalement, à chaque fois que vous avez... Si vous êtes prêt à payer le prix énergétique, à payer le prix économique, eh bien, effectivement, vous dégagez des quantités tout à fait phénoménales de ressources. Et c'est bien ce qui se passe, puisque on a des taux de croissance dans les ressources qui sont très impressionnants, qui sont supérieurs au PIB. L'éphéméralisation de Buckminster-Fuller ne s'est pas produite à date. En réalité, on intensifie aujourd'hui la consommation et l'extraction de matières premières. Hein, donc l'économie ne se dématérialise pas, hein, au contraire, elle est plus que jamais matérielle. Et ça, bah, ça a été permis par le progrès technologique.
Oui, alors donc on va de plus en plus loin, de plus en plus profond. Alors il y a des techniques qui se développent qui du coup sont assez surprenantes. Par exemple, est-ce que vous connaissez la phytoextraction, ou les plantes que l'on appelle hyperaccumulatrices? Sont des plantes qui sont encore mal connues mais très communes dans de nombreuses régions du monde. Elles puisent les métaux contenus dans le sol comme le cobalt, le cuivre ou le nickel. C'est le cas par exemple de l'alicium mural qui se nourrit de nickel et permet ainsi de dépolluer les terres naturellement riches en métaux lourds ou qui ont été souillés par l'industrie et l'extraction minière. Et dans l'est de l'Albanie, les paysans et les scientifiques des universités de Tirana et de Nancy, en France, mènent ensemble des expérimentations. Louis Seyé est allé voir sur place, près de Pogradec, c'est dans l'est de l'Albanie.
C'est une plante que les fermiers de Pogradec connaissent particulièrement bien. Sur les bords du lac Doride, tout près de la frontière macédonienne, Dalip Alilari et son fils Vahit, on l'entend arracher l'alisson des murs de leurs champs peu fertiles.
On n'avait aucune idée de ce que c'était. Pour nous, c'était une plante comme les autres.
Pour moi, c'était une plante qui nuisait à celle que je cultivais et dont j'avais besoin pour vivre. Les haricots, le maïs ou les céréales.
C'était une plante nulle, inutile. Mais on n'avait pas l'information. Maintenant qu'on la connaît, on la regarde différemment. Avant, elle nous paraissait même dangereuse. Parce que quand tu veux cultiver quelque chose sur ton terrain, tu es obligé d'enlever les adventices qui y poussent.
Si Vahid parle aujourd'hui au passé, c'est que cette plante touffue aux nombreuses petites fleurs jaunes a désormais trouvé sa place dans les champs que cultive la famille. Très commune dans l'est de l'Albanie, l'alisson des murs s'épanouit sur cette terre rouge et sèche.
Ça fait 4 ou 5 ans que je loue mon terrain à la professeure Aïda Bani pour cultiver ses plantes. Et je participe aussi. Je travaille sur le terrain en apportant de l'engrais organique et en aidant à la culture. Je viens régulièrement. C'est aussi bon pour le roulement des cultures, parce que la monoculture, ce n'est pas bon pour la terre. Dans quelques temps, je replanterai du maïs, du seigle ou de la luzerne.
À l'origine de cet étrange roulement de culture, la chercheuse albanaise Aïda Bani. Voilà plus de 15 ans que cet agronome de l'université de Tirana étudie l'alisson des murs et le curieux appétit de cette plante pour les métaux enfouis dans le sol.
Nous sommes sur une parcelle. C'est une parcelle où nous sommes en train de cultiver Odontarena calcidica. C'est un synonyme d'alisson mural. C'est une plante hyper accumulatrice qui puisse le nickel du sol. Et après, nous cultivons cette plante ici. Et après, nous pouvons extraire le nickel des plantes. Et ce nickel, nous pouvons l'utiliser dans l'industrie. C'est une méthode pour prendre du nickel des sols.
Après avoir puisé par ses racines le nickel contenu dans le sol, l'alisson muralé, de son nom latin, peut stocker jusqu'à 2% de ce métal dans ses tissus. C'est la phytoextraction. Moutarde indienne, tabouret des bois, arbre à nickel, on recense aujourd'hui près de 500 plantes hyper accumulatrices de par le monde. Et les cousines de l'alisson des murs se plaisent particulièrement bien en Albanie. Il faut dire que les sols ultramafiques, les sols riches en métaux, représentent jusqu'à 11% de la superficie totale de ce pays des Balkans.
Les sols, ici, s'appellent le sol de Sorpontine, comme Sorpent, parce que la couleur semble comme la couleur de serpent. Et ces sols sont des sols qui sont pauvres avec les macronutrients comme phosphore, azote et potassium, mais sont très riches avec les métaux lourds, nickel, cobalt, chrome. Et il y a beaucoup de nickel total, mais aussi de nickel disponible. C'est le nickel qui peut pousser des plantes.
En puisant les métaux contenus dans les sols, l'alisson des murs permet d'assainir des terrains parfois dangereux pour la santé humaine à cause de leur concentration très élevée en nickel. Grâce à une collaboration avec ses collègues de l'Université de Lorraine, Aïda Bani cultive ainsi près de 8 hectares de cette plante dans l'est de l'Albanie. Sur un hectare cultivé, la chercheuse récolte aujourd'hui près de 200 kg de nickel.
Cette plante, il y a capacité pour extraire le métal de deux types de sols. Des sols ultramafiques qui sont naturellement riches avec métaux lourds, mais aussi des sols qui sont contaminés d'activités industrielles comme le site industriel de Preyens et le site industriel du Bassin. J'ai travaillé avec une de mes étudiants de doctorat et nous avons construit des expériences in situ à El Bassin et à Preñas, et cette plante a poussé très bien et nous avons de beaux résultats qui nous a montré qu'il peut appliquer des expériences pour dépolluer des sols contaminés par les métaux lourds des industries ou mining.
Si elle permet de soulager l'environnement, la phytoextraction présente aussi un potentiel économique intéressant. Une fois récoltées, les plantes cultivées en Albanie sont ainsi expédiées dans l'est de la France au laboratoire Déconique, une entreprise fondée par 7 chercheurs de Nancy. Après l'incinération de la biomasse et différents procédés chimiques, les scientifiques récupèrent du sel et de l'oxyde de nickel. Coloration de verre de lunettes et de céramique, composants de batteries et autres catalyseurs, ces biominéraux de haute qualité permettent des utilisations variées. En Albanie, la vente à Econic des plantes récoltées améliore aussi le quotidien des paysans qui cultivent la lisson des murs, comme Dalip Gadjo, 60 ans.
Dans notre région, l'agriculture demande beaucoup de dépenses. Et à la fin, on perd plus qu'on gagne à cultiver ces sols peu fertiles. Si tu fais des haricots sur 2000 m² et que tu ne récoltes que quelques dizaines de kilos, bah tu ne t'en sors pas. Parce qu'entre l'engrais, l'irrigation et le travail dans le champ, il y a plus de dépenses que de revenus. C'est plus intéressant avec cette plante.
Selon Aïda Bani, la culture de la lisson des murs permettrait aux paysans de gagner jusqu'à 4 fois plus que les cultures traditionnelles. La chercheuse albanaise espère aussi pouvoir un jour transformer la biomasse sur place et récupérer le métal stocké dans les plantes directement en Albanie.
Avec mes collègues françaises, j'ai discuté ça parce qu'il coûte le transport de biomasse. Comme ça, en futur, nous pouvons faire quelque chose pour manipuler la biomasse ici en Albanie. Mais aussi en Albanie, il y a des chimistes et des jeunes qui connaissent bien le clé de cette technologie, mais nous sommes en train de discuter ça. J'espère qu'en futur, nous pouvons élargir les surfaces et après, nous pouvons commencer à manipuler la biomasse ici en Albanie.
Face à l'urgence climatique et la nécessité de changer certaines pratiques, le métal récupéré par les plantes hyperaccumulatrices devrait séduire les industriels désireux de se fournir en matériaux issus de pratiques plus saines pour l'environnement. Dans les campagnes albanaises comme sur les anciens sites industriels de l'est de la France, l'agromine ou la culture des métaux pourrait ouvrir de nouveaux horizons.
Philippe Biwik, je rappelle que vous êtes ingénieur, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales, entre autres. Alors comment est-ce que vous réagissez à ce reportage? Est-ce que pour vous, c'est emblématique du fait qu'on va chercher les minéraux de plus en plus loin, finalement, jusqu'aux plantes?
Alors dans ce cas précis, je dirais non, pas vraiment, parce qu'en fait, cette technique-là, donc de l'accumulation, donc, d'abord, c'est une technique qui est très intéressante pour la dépollution de sites. Alors, ça peut être des sites miniers, ça peut être des sites industriels. Donc, c'est ce qu'on appelle la phytoremédiation. Et là, il y a vraiment un intérêt. Le fait de pouvoir soit fixer, soit pouvoir extraire un certain nombre de métaux, c'est des choses qu'il faut continuer à explorer et qui sont, je pense, très intéressantes. Alors là, on est dans un cas un petit peu différent, qui est plutôt de dire je cultive sur des endroits où il y avait déjà un petit peu de nickel. Alors, on doit être à, je sais pas, des roches qui doivent être à 0,1% peut-être de concentration, et puis ça va être concentré jusqu'à des concentrations tout à fait impressionnantes, parce qu'on parle de 150 à 200 kilos de nickel par hectare. La production de biomasse, elle contient peut-être 1%, 1,5% de contenu en nickel. C'est l'équivalent des mines de nickel aujourd'hui, donc c'est tout à fait impressionnant. Maintenant, est-ce que ça va permettre de remplacer ou vraiment d'accompagner la croissance de la demande pour un métal comme le nickel? Là, c'est plus discutable, parce que si vous voulez, on peut faire des calculs de coin de table, mais on va dire que, imaginons par exemple qu'on mettrait 1000 km² en culture, ouais, ce qui serait quand même déjà quelque chose de très très impressionnant, hein, eh bien on n'atteindrait même pas 1% de la production mondiale actuelle de nickel, quoi. Donc, ou dit autrement, si on voulait réussir à produire tout le nickel sous cette forme-là, il faudrait à peu près quelque chose de l'ordre de grandeur de la surface agricole utile française, quoi. Donc ça risque de rester un petit peu un marché vraiment d'ultra-niche, je dirais. Et malheureusement, mon inquiétude sur le nickel, c'est plutôt qu'on aille dans des mines sous-marines, puisque là, pour le coup, on sait qu'il y a ces fameux nodules polymétalliques, hein, notamment dans certains endroits du Pacifique, la zone Clipperton notamment, et là où on trouverait il y aurait du nickel et du cobalt en particulier, un peu de cuivre, qui pourrait être exploité dans le futur.
On en reparle dans un instant, juste après du soul angolais dans C'est pas du vent sur RFI avec Avosinho, Mama Mama d'Ivoi Diame.
Quando quenta gila yarikanga, quando quenta gila yarikanga, quando coburi sa santana, que tu chica e mega bangue, fala com o nojingongo.
Avec l'ingénieur Philippe Biwik, spécialiste de l'épuisement des ressources minérales et auteur de L'âge des low-tech et plus récemment de Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, deux livres publiés aux éditions du Seuil. Alors Philippe Biwik, quelles sont les principales ressources minérales que nous utilisons dans le monde aujourd'hui? Je crois qu'elles sont concentrées dans un tableau, hein, le fameux tableau de Mendeleïev. Expliquez-nous ça.
Alors oui, le tableau des éléments chimiques de Mendeleïev, sur lesquels souffrent beaucoup de lycéens. Enfin bon, c'est une manière très pratique de classer les métaux selon les couches électroniques. Et donc voilà, quand vous les classez sur des colonnes diverses et variées, vous allez avoir des caractéristiques de tous ces éléments chimiques qui apparaissent de manière tout à fait lumineuse. Alors les métaux, c'est une soixantaine d'éléments chimiques aujourd'hui, hein. Et on utilise quasiment l'intégralité de ces 60 métaux différents dans nos produits, soit du quotidien, soit industriels. Alors vous avez vraiment des natures très, très différentes, hein. Vous avez évidemment les grands métaux ou les très grands métaux. Le premier d'entre eux, c'est le fer, évidemment, qui va permettre de faire de l'acier. On parle d'une échelle qui est de plus de milliards de tonnes, hein, à l'échelle mondiale. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les grands métaux non ferreux, donc l'aluminium, le cuivre, le zinc, le plomb. Là, on parle plutôt de quelques millions ou quelques dizaines de millions de tonnes, hein, donc on a déjà descendu d'un ordre de grandeur. Et puis, vous avez ensuite toute une série de ce qu'on appelle des petits métaux ou les métaux de spécialité, donc qui composent peut-être la 45 ou 50 métaux sur les 60, et qui là vont être produits parfois à quelques dizaines de tonnes seulement au niveau mondial, hein. Alors vous avez le rhénium, je crois que c'est un de ceux qui est produit, il doit y avoir peut-être 40 ou 50 tonnes dans le monde. C'est uniquement utilisé dans les alliages d'aciers spéciaux, de turboréacteurs, vous voyez, dans les avions. Voilà. Et puis vous en avez d'autres qui sont plutôt en dizaines de milliers, voire centaines de milliers de tonnes. Donc un qui est bien connu pour défrayer un peu la chronique en ce moment, vous avez par exemple le lithium ou le cobalt qu'on trouve dans beaucoup de batteries de lithium-ion. Et là, on parle plutôt d'entre 80 000 et 120 000, 140 000 tonnes par an d'extraction et de consommation.
Et tous ces métaux sont dans la croûte terrestre, finalement. Ce qui se passe, c'est qu'avec l'évolution des technologies, on a complexifié l'usage de ces métaux qui, du coup, sont de plus en plus difficiles à recycler. Vous parliez du recyclage à l'instant. Contrairement aux énergies fossiles, la plupart des métaux sont recyclables, mais de moins en moins.
Alors, ce n'est pas forcément tout à fait qu'ils sont moins recyclables, mais qu'ils sont mal recyclés ou recyclés avec une dégradation. C'est vrai que les métaux sont normalement recyclables à l'infini. Hein, on lit ça parfois sur Internet. Effectivement, vous prenez un câble de cuivre, vous refondez le cuivre, vous refaites un câble de cuivre. Il n'y a aucune perte de caractéristiques, de qualité. Hein, contrairement, par exemple, à des plastiques. On sait que les plastiques, déjà, tous les plastiques ne sont pas recyclables, mais en fonction des types de plastiques, vous avez des chaînes qui se cassent, des liaisons chimiques qui se cassent. Donc, il y a une dégradation de la qualité de votre plastique, ce qui fait que c'est très difficile, par exemple, de refaire une bouteille à partir d'un plastique 100% recyclé, et qu'en général, on arrive à injecter un peu de plastique recyclé dans la bouteille, mais pas à 100%. Dans le cas des métaux, on n'a pas cette perte de qualité. Le problème, c'est que souvent, ces métaux sont utilisés soit sous forme d'alliage, soit en toute petite quantité, notamment dans les produits qui ont été miniaturisés, comme les produits électroniques, évidemment, hein, pour éviter que...
Les téléphones...
Voilà, que sinon le smartphone ferait la taille d'une brique, hein, c'est possible, mais voilà. Et du coup, on va utiliser d'abord des métaux plus rares, plus spécifiques, donc par exemple le fameux coltan qu'on récolte dans l'est du Congo, le tantal qui va servir dans les micro-condensateurs, donc on peut faire des condensateurs à l'aluminium, hein, et au papier buvard, c'est ce qui se faisait dans les années 60-70, mais à ce moment-là, effectivement, votre smartphone est un peu gros, donc on a besoin de micro-condensateurs, et pour ça, on va aller chercher le tantal. Et puis donc, ils vont être soit très mélangés dans différents alliages, hein, dans une porte de voiture, vous allez avoir peut-être une dizaine de métaux différents, sans difficulté, soit vous allez les avoir mélangés dans un produit électronique. Et en fait, ces deux composantes-là vont faire que, quand vous allez arriver en recyclage, si vous voulez, les 2 euros des 40 métaux qui sont en toute petite quantité dans votre smartphone, eh bien avec 2 euros, vous n'allez pas pouvoir mettre quelqu'un avec une pince à épiler et un petit tournevis pour tout bien enlever et tout bien classer. Donc vous allez en gros passer tout ça à la broyeuse, après avoir peut-être enlevé la batterie et la broyer ailleurs et l'écran dans une autre filière, mais grosso modo on va broyer, puis ensuite vous allez faire de la pyrométallurgie, de l'hydrométallurgie, la même qu'on fait à la sortie des mines, hein. Sauf que quand vous avez mélangé 30 ou 40 métaux, eh bien ça va être extrêmement difficile de les reséparer.
Mais alors est-ce que ça veut dire du coup qu'on risque, même si les métaux sont recyclables à l'infini, on risque une pénurie de certains métaux à terme ? Est-ce que c'est ça la limite de la croissance verte qui utilise énormément de métaux, que ce soit pour les panneaux solaires, pour les éoliennes et toutes ces nouvelles énergies ? On pense aussi aux voitures électriques, évidemment. Est-ce que c'est ça la limite ? C'est que en fait, tous ces métaux-là ne sont pas infiniment disponibles et qu'à force de les mélanger, on n'arrive plus à les recycler, on ne pourra plus les récupérer, on n'aura pas assez, ou alors ça sera trop cher parce qu'il faudra aller trop loin, trop profond.
Alors c'est effectivement un peu la thèse que je défends, c'est-à-dire que dans l'absolu, en fait, on a vraiment une quantité phénoménale de métaux dans la croûte terrestre, il n'y a pas de problème. Si vous prenez par exemple le contenu en cuivre du premier kilomètre d'épaisseur de tous les continents de la planète, eh bien vous trouvez l'équivalent d'un million d'années de consommation actuelle. Mais en théorie, voilà, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui limite en fait réellement l'accès à ces ressources ? Et à ce moment-là, on va parler de réserve. C'est la possibilité de produire, avoir la technologie et avoir le bon prix pour les extraire. Hein. Mais vous n'avez pas que la composante économique. Vous avez aussi la composante énergétique. Et effectivement, finalement, on peut toujours aller plus profond, on peut toujours aller exploiter des minerais de moins en moins concentrés. C'est effectivement ce qu'on fait aujourd'hui. C'est bien la trajectoire, je dirais, extractiviste dans laquelle nous sommes entrés. Et à la limite, nous sommes entrés depuis la nuit des temps, hein, puisqu'on en est rentré dans l'âge du cuivre, heureusement, avec une concentration en cuivre plus importante que les mines d'aujourd'hui, hein, qui sont à 0,5%, les nouvelles mines. Donc, pour faire ça, malheureusement, il faut beaucoup d'énergie. Alors avec une énergie infinie, effectivement, vous pouvez toujours aller chercher des ressources. Mais comme on est contraint sur l'énergie, et qu'on le sera sans doute de plus en plus, puisqu'on doit aussi s'inscrire dans les limites planétaires d'un point de vue climatique, et puis que cette énergie, c'est souvent une énergie fossile pour le coup, hein, c'est-à-dire que quand vous avez des gros camions qui font 300 tonnes de charge utile et qui remontent du fond d'une mine à 500 mètres de profondeur, c'est pas encore des camions électriques qui sont alimentés aux panneaux solaires, quoi. Mais oui, je pense que la trajectoire technologique de l'humanité est bien un moment d'être confronté à cette problématique des ressources. Et ce qui est un petit peu terrible, c'est que finalement, dans une ère d'abondance encore énergétique, peut-être qu'on se la permet aujourd'hui, eh bien le gâchis de ces ressources est totalement effroyable. Et il y a justement beaucoup de ces métaux emblématiques des nouvelles technologies. Vous avez toutes les terres rares, vous avez le tantal dont on parlait tout à l'heure, vous avez l'indium des écrans plats, vous avez le gallium qui sert dans les LED, etc. Tous ces métaux sont recyclés quasiment à 0%. Et donc le gâchis pour les générations futures est un peu terrible.
Du coup, votre credo, c'est qu'il faut miser sur les low-tech, les technologies simples, accessibles, populaires. On en parle juste après Alicia Keys, Wasted Energy, justement, dans C'est pas du vent sur RFI. Don't want your love. Don't worry, home, say the night is none of your business. Too bad, I'm running out.
times you turn a blind eye to the way I feel. Oh, you're the reason why I'm numb. And when I try to give you my time, it's never ever ideal. Had to learn it the hard way.
Énergie dans C'est pas du vent sur RFI. Philippe Biwik, je rappelle que vous êtes ingénieur et auteur de nombreux livres sur la raréfaction des ressources minérales. Vous nous avez expliqué que les 60 métaux que nous utilisons couramment dans l'industrie mondiale ne seront pas accessibles à un prix et avec une consommation énergétique raisonnable de manière infinie, que le recyclage n'est pas non plus une solution fiable. Alors que faire ? Eh bien, misons sur le low-tech, donc ces technologies simple, accessible et populaire. C'est aussi le credo depuis 20 ans du designer Cédric Carle qui recense les innovations oubliées et invente des solutions low-tech dans le domaine de l'énergie. C'est un géo-trouve-tout qui partage et fédère autour de l'urgence de la transition énergétique sur une friche de 600 mètres carrés qui est mise à sa disposition par la mairie de Montreuil en région parisienne. Ça s'appelle la station E et c'est là que nous l'avons rencontré.
Depuis donc une vingtaine d'années, on utilise tous les prétextes pour parler d'énergie, mais alors de manière aussi fun, parce que c'est important. On essaye de trouver les manières pédagogiques de raconter ça et d'animer des communautés, parce qu'aujourd'hui, les communautés sont capables de créer par elles-mêmes. Et nous, on leur fournit les outils aussi et les pistes. Aujourd'hui, les jeunes dans la technologie, il faut qu'ils apprennent par eux-mêmes. Hein, ça fait partie des choses qui leur permettront de s'auto-former sur leur durée de vie professionnelle. Et nous, on exhume alors avec Paléo-Énergétique ou avec Regenbox, notre système là, sur les piles alcalines, ben, on exhume plein de prétextes pédagogiques, plein d'idées de recherche, etc.
Alors Paléo-Énergétique, on peut peut-être aller voir, il y a une frise là-bas.
Ouais, on a la frise qui est à l'entrée. Parce qu'en fait, à force de chercher des innovations énergétiques, parce que c'est un peu notre passion, on s'est aperçu qu'il manquait une ressource. Parce que, en gros, il y a pas mal de musées sur l'énergie, etc. Mais ça parle très peu des énergies renouvelables. Même tous les bouquins, moi j'en achète plein en brocante, chez les bouquinistes, etc. Parce que notre recherche, elle va aussi dans les archives privées. C'est pas que sur Internet, c'est pas que dans les bibliothèques. À chaque fois que je croise un bouquiniste, je lui raconte l'histoire de Paléo et je lui laisse la carte en lui disant « Si tu trouves des trucs sur l'énergie, tu nous envoies ». Et on en reçoit. Il y a des mecs qui jouent le jeu. On reçoit des cartes postales, on reçoit des trucs complètement fous.
L'idée, en fait, de la paléo-énergie, c'est de recenser les inventions énergétiques qui sont restées sur le bord de la route pour mille raisons.
C'est ça, en fait, c'est de recenser tous les innovateurs, tous les systèmes de moteurs, de panneaux solaires, etc. Mais aussi de retrouver leurs origines, parce que des fois, on a l'impression que le panneau solaire thermique, c'est un truc pour faire l'eau chaude grâce au soleil. Et on a l'impression que c'est né dans les années 1950, 60 peut-être. Et là, si on s'approche de la frise, le premier panneau solaire thermique, voilà, il est là. On est en 1891.
Ah oui, Clarence Kemp. Voilà. Qui a inventé ce premier système solaire commercialisé pour l'eau chaude sanitaire qui voilà. Était vendu $25.
Et en fait, ce qui est marrant, c'est que dans les notices, donc on a retrouvé la pub de l'époque, là, ils disent justement que justement, tu as un retour sur investissement de 1 an et demi et ils comparent ça avec le prix du charbon à l'époque. Et donc, à Pasadena, en fait, la ville où ça a été installé au tout début, il y avait 30%, tu vois, un tiers des ménages utilisaient le Climax, parce que c'était son nom, pour chauffer l'eau dans leur maison. Et puis après, pour des raisons...
En 1897.
Ouais, c'est quand même assez fou. Donc tout ça, c'est plein d'enseignements. C'est-à-dire que là, du coup, on peut retracer des systèmes très low-tech, pour le coup, parce qu'il n'y avait pas de régulation, parce qu'il n'y avait pas d'électronique, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc si tu veux de retourner aux sources des inventions, ça te permet de retomber sur des trucs qui, un, sont dans le domaine public, deux, tu peux certainement retrouver les plans. Trois, tu peux les refabriquer toi-même avec ton école d'ingénieur ou même ton Fab Lab ou même ton atelier et ton tournevis cruciforme et ta clé à molette. Alors souvent, on retrouve, grâce à l'INA...
L'Institut National de l'Audiovisuel.
Voilà, qu'on remercie, qui nous aide des fois à chercher. Il y a la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, grâce aussi au système Gallica qui scanne des archives comme ça. Donc on retrouve des journaux... Et en fait, souvent, les journalistes ont écrit des petits articles. Donc, les journalistes sont aussi, alors pas des lanceurs d'alerte, mais des découvreurs de pionniers, en fait, quelque part. Et après, ça reste un article et l'industrie s'en empare pas forcément, etc. Mais voilà, donc on retrouve plein de pépites low-tech dans le domaine public. Et donc, c'est une source de savoir à partager que déjà plein d'écoles se partagent, parce qu'il y a plein d'écoles qui achètent aussi le livre « Rétrofutur, une contre-histoire des innovations énergétiques ».
Chez Buchet-Chastel.
Chez Buchet-Chastel.
Mais est-ce que dans ces innovations anciennes, on peut trouver des sources pour aujourd'hui? C'est ça la question?
Oui, justement. C'est comme je te disais, l'exemple du chauffe-eau solaire. Ben, en retournant aux origines du chauffe-eau solaire, tu vas découvrir un système qui est extrêmement low-tech, mais qui avait été pensé à l'époque. Parce que les mecs, c'était pas les ingénieurs de l'époque, okay, ils n'avaient pas d'informatique, mais ils te faisaient des trucs avec une règle et un compas.
Donc aujourd'hui, on peut le refaire. Et ça, vous, votre travail, en fait, c'est de faire connaître ces inventions et de les mettre à disposition du grand public
voilà.
Qui ensuite se forme, se débrouille pour le refabriquer par lui-même.
C'est des points de départ. Ce système-là, le Climax de 1891, pourrait faire l'objet d'un objet d'étude, d'un étudiant qui dirait « moi, je vais le refabriquer comme à l'époque ». On a un autre exemple. Alors, c'est Morse qui avait inventé le système à air chaud pour chauffer les maisons. Et aujourd'hui, ça a été refait. C'est ce qu'on appelle le AirCans. C'est des mecs qui font des panneaux solaires à air chaud avec des canettes d'aluminium. Et quand tu regardes le premier projet que Morse il a fait, pareil, en 1890, ben en fait, le système il est encore plus malin que ce qu'on fait maintenant.
Et puis, il y a des inventions finalement, sont contre-productives pour les industriels. Et vous avez découvert à ce sujet quelque chose d'intéressant au niveau des piles.
Effectivement, l'exemple de ce grand monsieur qui s'appelle Karl Kordesch, qui, dans les années 1960, alors d'abord, il travaille sur les piles à combustible qui vont mener aux piles à combustible utilisées dans la mission Apollo. Donc, c'est un grand électrochimiste de l'époque. Et il va travailler sur d'autres types de piles, dont les piles alcalines qu'on connaît tous, qui sont ces fameuses piles qu'on met dans les Walkman, dans les enregistreurs, dans les télécommandes. Et les piles alcalines, on sait qu'elles sont à usage unique. Donc, une fois qu'on a vidé l'énergie qui est dedans, ben, il n'y en a plus et donc on les jette. Et effectivement, à l'époque, Karl Kordesch, lui, il sort un chargeur de piles alcalines. Donc, ça voudrait dire qu'on peut les recharger. Et effectivement, du coup, quand on a retrouvé ça, eh bien, on a retrouvé le chargeur original sur eBay qu'on a acheté d'occasion. D'ailleurs, on les trouve toujours. Hein, voilà. Et à l'époque, il sortait les piles qui allaient avec. Donc, c'était de la pile alcaline. Qui était vraiment bien conçu pour aller avec son chargeur. À l'époque, en tout cas, il n'y avait pas les NIMH, il n'y avait pas les rechargeables qui existaient. Et donc, Karl Kordesch, il sort un chargeur de piles alcalines, dites à usage unique, qui permet de les recharger. Du coup, nous, ça nous a forcément intéressés. Le chargeur, il a disparu, il était commercialisé une année ou deux. Alors, C'était peut-être aussi un flop commercial, peut-être ça coûtait trop cher, on ne sait pas. Bref, on ne cherche pas de coupable. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a ça, c'est dans le domaine public. Et donc, on l'a refait, on l'a remis au point un prototype qui s'appelle Regenbox et qui permet du coup de recharger les piles alcalines. Il permet de les régénérer, comme on dit, hein, pour ne pas confondre avec les piles rechargeables. Et surtout, on l'a rendu un peu plus intelligent, c'est-à-dire qu'on l'a connecté avec un ordinateur qui permet de mesurer les charges et les décharges qu'on fait de manière automatisée. Et il permet aussi de mesurer ce qu'on trouve dans une pile. Et donc, une école d'ingénieurs au Mali, par exemple, ou au Sénégal, ou dans plein de pays, pourrait se dire avec des étudiants, voilà, nous, on va mesurer toutes nos piles qu'on trouve sur notre marché. Et puis, on va publier les capacités des piles. Et donc, les consommateurs vont donc pouvoir savoir quelle est la meilleure du marché et arrêter d'acheter des piles qui leur vident le portefeuille, quoi.
Je vide le paquet de chips.
J'affine le fromage râpé.
Mon doigt explore ma narine.
C'est l'événement de la journée.
Si vous êtes un Fab Lab ou une école d'ingénieurs en Afrique, vous avez envie de tester la Regenbox, et bien allez sur le site regenbox.org ou sur la page de C'est pas du vent et contactez Cédric Carl. Il sera ravi de vous en envoyer une gratuitement et d'échanger avec vous. Philippe Biwix, comment est-ce que vous réagissez à ces deux démarches, que ce soit la Regenbox ou la paléo-énergétique?
Je réagis très, très positivement, surtout qu'il m'est arrivé de croiser Cédric quelques fois dans la vraie vie. Ce que je trouve intéressant, alors la Regenbox, clairement, c'est un vrai intérêt d'économie de matière. Il y a effectivement, je crois que la pile ou la batterie d'ailleurs, mais la pile effectivement jetable, c'est emblématique, je pense, de la consommation de ressources uniques. Ça, d'ailleurs, il faut des dizaines de fois son contenu énergétique pour la produire, en réalité. Hein. Donc la portabilité coûte très cher, la portabilité de l'énergie, dans ce cas-là, coûte très cher. Et donc, voilà, c'est miraculeux si on pouvait imaginer d'en faire des piles quasiment rechargeables, quoi. Alors, sur l'aspect des recherches un petit peu historiques, d'abord, moi, je suis toujours séduit par la question historique parce que je trouve que, et notamment dans les écoles d'ingénieurs, on passe un peu des mathématiques de la fin du XVIIIe siècle à ce qui se passe en stage dans une entreprise, et en étant vraiment projeté dans un domaine très très précis d'un sous-ensemble de la production mondiale d'objets complexes. Et on fait pas beaucoup d'histoire des sciences, on fait pas beaucoup d'histoire des techniques, et je trouve que c'est toujours intéressant et rafraîchissant quand on veut réfléchir un peu à l'avenir, c'est pas mal de voir d'où on vient aussi.
C'est ça les low-tech finalement ?
Alors justement non, j'allais dire la petite précaution, c'est de se dire non, les low-tech c'est pas juste de faire revivre des technologies du passé. Alors moi déjà j'aime bien parler de démarche low-tech et non pas d'objet low-tech, parce que quand on tombe sur l'objet low-tech c'est toujours très complexe, parce que si on imagine de dire voilà, ce sont des technologies plus moins consommatrices de ressources, plus durables, plus réparables, où on est plus autonome avec, on comprend quand il y a une panne, donc c'est le vélo par rapport à la voiture, quoi, parce que le vélo on comprend tout de suite pourquoi il est en panne et on peut sans doute le faire durer très très longtemps avec un bon réseau de pièces détachées ou un réparateur.
C'est quoi la démarche low-tech alors ?
Alors voilà, donc l'objet ne peut pas être, un vélo en fait c'est ultra technologique à fabriquer, donc en fait si on part juste de l'objet c'est un peu difficile à définir. La démarche c'est de se dire effectivement d'abord avoir une démarche de sobriété, avoir une démarche de réduction à la source, c'est-à-dire finalement la meilleure ressource c'est celle dont on n'a pas eu besoin, celle qu'on n'a pas consommée. Alors ça, on peut l'appliquer à plein de choses. On peut l'appliquer, au domaine de la mobilité, en disant finalement les voitures aujourd'hui, elles sont toujours plus efficaces. Il n'y a pas de problème, mais sauf qu'elles sont de plus en plus lourdes, donc il y a un effet rebond et donc elles émettent plus de CO2. La voiture moyenne aujourd'hui, elle est plus émettrice de gaz à effet de serre que l'année dernière. Donc ça, c'est quand même un vrai problème. Alors qu'on pourrait finalement engranger les gains d'efficacité et faire des voitures de plus en plus petites qui rempliraient 98% de nos besoins. Très probablement.
Et puis surtout repenser la mobilité.
Alors ça c'est la version la plus complexe
évidemment.
Limiter
l'usage de la voiture individuelle.
Voilà, d'un point de vue systémique, on pourrait dire c'est super. Il faut revoir un peu l'urbanisme et la charte d'Athènes et le fonctionnalisme qui fait qu'on a séparé l'endroit où on habite, l'endroit où on travaille et l'endroit où on s'amuse en gros. Mais ça va prendre beaucoup beaucoup de temps. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont besoin de la voiture parce que même avec un vélo électrique, ça sera difficile de faire l'aller-retour tous les jours pour aller au travail. Par contre, voilà, on pourrait faire des voitures plus petites, qui et finalement, voilà, on parlait tout à l'heure de la deux chevaux qui avait été électrifiée dans les années 70, on pourrait faire, 60, on pourrait faire des voilà des équivalents deux chevaux, si je puis dire, mais avec un coefficient de pénétration dans l'air un petit peu meilleur quand même, et puis un pot catalytique si elle est thermique, voilà, pour éviter.
Donc quand finalement, même... vous aussi, vous êtes un partisan de la technologie.
En fait, je suis un partisan de l'utilisation intelligente de la technologie. Malheureusement, on dit souvent la technologie n'est ni positive ni négative, elle est neutre parce que finalement, avec mon couteau, je peux éplucher les carottes ou assassiner mon voisin. En fait, ça a été totalement démonté depuis bien longtemps, notamment par un penseur qui s'appelle Jacques Ellul, qui disait non, la technologie n'est ni positive ni négative ni neutre. Elle est toujours ambivalente. C'est-à-dire que vous avez à la fois toujours les bons côtés et les mauvais côtés. Hein, vous pouvez pas avoir Internet bien commun mondial sans avoir, je sais pas, le harcèlement en ligne et
l'industrie du porno.
Voilà, en fait, vous avez toujours un peu de tout est un peu mélangé. Et en fait, le challenge, c'est de réussir à maximiser les bons côtés et à minimiser les mauvais côtés. Donc, une technologie sera toujours impactante. Ça sera, on peut pas avoir un objet qui soit zéro impact, totalement, je sais pas quoi, green, zéro émission, etc. C'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est minimiser et minimiser fortement. Et le gâchis, il est tout à fait gigantesque. Et donc j'ai pris l'exemple de la voiture, effectivement, qui nous amène sur la question de la mobilité, mais voilà, on pourrait déjà faire des voitures plus petites, mais dans le bâtiment, ben, on pourrait utiliser beaucoup mieux les mètres carrés existants avant de construire des nouveaux mètres carrés. Alors ça peut être en partageant mieux les lieux. Je pense, par exemple, les bâtiments publics, vous pouvez imaginer que les écoles, ben, ça vit pas le soir, ça vit pas le week-end, ça vit pas forcément pendant les vacances, parfois un peu avec le centre aéré, ben, vous avez des mètres carrés disponibles pour accueillir des clubs, des associations, des concerts, que sais-je. Il y a plein de pistes comme ça qui existe pour intensifier l'usage de l'existant. Et puis sur les objets du quotidien, je dirais, c'est le grand challenge, en fait, c'est de faire de l'éco-conception, on va dire, mais de l'éco-conception plus, qui consiste à faire deux choses en particulier. Un, c'est de rentrer dans un monde de la réparabilité, de la durabilité. Enfin, il y a beaucoup d'objets qui pourraient être quasiment totalement increvables. Hein. Enfin, un moteur électrique, ça s'use très, 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 très lentement, hein, si c'est bien entretenu. Et puis, vous avez la question de la conception elle-même, hein, pour éviter le syndrome du smartphone dont on parlait tout à l'heure, à savoir avoir trop d'objets, trop de produits mélangés qui vont créer des incompatibilités ensuite au moment du démantèlement, au moment où on va devoir le recycler dans l'ultime étape d'une vie qui devrait être beaucoup plus longue. Et puis, vous avez une autre question qui est la question du moi j'appelle ça le techno-discernement, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser vraiment les technologies là où elles sont utiles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait qu'elles sont dispendieuses en termes de consommation de ressources, parfois les ressources seront consommées, elles seront consommées de manière inéluctable, parce que le taux de recyclage ne sera pas jamais de 100%, même si on veut s'améliorer, eh bien, de les utiliser au bon endroit. Et là, effectivement, est-ce que on doit les utiliser dans des applications, je sais pas, médicales, ou est-ce que on doit les utiliser dans des réfrigérateurs qui vont faire les courses tout seuls et des distributeurs de croquettes pour chats avec dispositifs de reconnaissance faciale. Voilà, c'est ça, en fait, le gros challenge.
Bon, il faudrait plein d'émissions pour discuter de tout ça. En tout cas, on a bien compris qu'il faut miser sur la sobriété, mais pour l'instant, tout le monde ne semble pas en faire un mantra. Donc, va falloir en faire beaucoup d'autres, Philippe Biwix, des livres. Merci d'être passé dans C'est pas du vent. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire, publié aux éditions du Seuil. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez témoigner, vous pouvez nous contacter aussi. Vous pouvez nous réécouter en podcast. Si vous aimez cette émission, donnez-nous la note maximale sur toutes les applications et postez des commentaires. Cela nous permettra d'être visibles et donc encore plus écoutés et donc de consommer de plus en plus de ressources. Voilà comment on se tire une balle dans le pied. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Même planète, même heure.